Chapitre 7. La réformation. Un nouveau commencement. L'intervention divine par la réformation fut plus que nécessaire, mais du point de vue biblique, elle fut loin d'être suffisante. La question se pose de savoir si les réformateurs, qui étaient tous des fils de l'Église romaine, ont réellement compris qu'un nouveau commencement devait être fait, car il n'y avait plus rien à réformer dans ce système entièrement séculier et non biblique. D'une part, en ce temps-là, se réalisa cette parole du prophète Jérémie. « Défrichez pour vous un terrain neuf, et ne semez pas au milieu des épines. » Jérémie 4.3. Mais, d'un autre côté, cette prophétie du chapitre 51.9 le fut aussi. « Nous avons traité Babylone, mais elle n'est pas guérie. Abandonnez-la, et allons-nous-en, en chacun dans son pays. » C'était une sortie, une rupture, comme si l'on entendait la voix venant du ciel qui disait « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez pas à ses péchés et que vous ne receviez pas de ses plaies. » Apocalypse 18, 4. Bien entendu, Luther, par exemple, avait correctement compris cette parole proclamée par l'apôtre Jean de la part du Seigneur. « Car tes marchands étaient les grands de la terre, car par ta magie, toutes les nations ont été égarées. Mais en elles a été trouvé le sang des prophètes et des saints et de tous ceux qui ont été immolés sur la terre. » Apocalypse 18, 23-24. De même, cette parole du prophète Jérémie s'accomplit. Babylone a été une coupe d'or dans la main de l'Éternel, enivrant toute la terre. Les nations ont bu de son vin. C'est pourquoi les nations sont devenues insensées. Jérémie 51, 7. Cependant, les réformateurs n'avaient pas réussi à faire une percée jusqu'au christianisme originel. En fait, seule une chose par-ci, une autre par-là, furent réformées, changées ou abolies. Ainsi, en premier lieu, le trafic des indulgences, le rôle du pape, ainsi que les abus en général, furent abolis. La pénétration du puissant témoignage que la justification de l'homme vient par la grâce seule, par la foi en Christ le Sauveur, constitua le point culminant conformément aux Écritures. Ce fut cela la véritable percée, ce qui enfonça les portes de la prison babylonienne. Mais d'autre part, on emporta avec soi des doctrines absolument non bibliques et qui sont typiquement catholiques. Le nombre des soi-disant sacrements, par exemple, fut seulement diminué. Le baptême des nouveau-nés fut maintenu, etc. Malheureusement, la foi en la Trinité, que les protestants prirent aussi avec eux, les conduisit en partie à marcher dans les mêmes empreintes que leur mère, l'Église catholique. Les juifs et ceux qui avaient une foi différente, comme par exemple les anabaptistes, furent même maudits par Luther, Schwenkfeld et d'autres. À Genève, le 27 octobre 1553, le médecin espagnol Michel Servet dut monter au bûcher, avec l'approbation de Calvin, parce qu'il rejetait la doctrine de la Trinité. M. Rang et O. Schliske, Die Geschichte der Kirche, page 132. L'histoire de l'Église nous a transmis ce qu'ont dit Luther et Melanchthon, particulièrement en ce qui concerne les anabaptistes. La position catholique prétendant que seule l'Église romaine pouvait sauver n'a visiblement pas été entièrement abandonnée par les réformateurs. C'est pourquoi on peut comprendre leur intolérance à l'égard de ceux qui croyaient différemment. Cet état d'esprit existe aujourd'hui encore. Des églises libres ou indépendantes, subsistant depuis des siècles, sont encore aujourd'hui appelées des sectes, bien que cette expression vienne en réalité du mot « section », qui désigne une partie d'un tout, et que selon Webster, elle n'énonce rien d'autre qu'une « communauté religieuse organisée ». De ce point de vue, toutes les dénominations organisées sont en effet des sectes. Au travers des différents cultes des religions récentes, la notion de secte est sortie à nouveau et apporte un mauvais arrière-goût. Bien que par la Réformation, le but divin du retour de l'Église à la communauté biblique du Nouveau Testament n'ait de loin pas été atteint, néanmoins, le premier pas vers la foi biblique avait été fait. On était revenu à la prédication de la parole de Dieu. De ce fait, nous devons de la reconnaissance et de la gratitude, premièrement, aux précurseurs des réformateurs, qui ont été brûlés sur le bûcher, puis aux réformateurs eux-mêmes. Dès ce moment, le royaume de Dieu se fraya à nouveau un passage avec puissance. Il s'ensuivit un réveil après l'autre, et chaque fois, la lumière de l'Évangile se répandait de plus en plus. Après la révélation de la justification par la foi, arriva l'expérience de foi suivante, qui était la sanctification du cœur par la parole et l'Esprit de Dieu. Des prédicateurs de réveil pleins de feu et qui sont entrés dans l'histoire de l'Église, s'avancèrent et publièrent les vérités bibliques, lesquelles furent ensuite expérimentées par ceux qui les écoutaient. Comme les serviteurs de Dieu de tous les âges, ils n'étaient pas, eux non plus, des fonctionnaires ou des dignitaires, mais bien des serviteurs de la parole, et par la prédication de l'Évangile, ils mettaient les gens en relation avec Christ. Malheureusement, ces hommes employés par Dieu s'arrêtèrent aussi chaque fois à la doctrine qui leur paraissait à eux particulièrement importante. Les uns se contentèrent de la justification, les autres de la sanctification. D'autres encore se contentèrent de la conversion et du baptême de la foi, etc. Toutefois, Dieu continuait d'agir par son esprit. Au tournant du siècle, parmi les différentes communautés protestantes et libres de croyants convertis qui aspiraient à cela, une action spontanée de l'esprit se manifesta. Ils firent la même expérience surnaturelle avec Dieu que les croyants de l'Église primitive. C'est ainsi que commença, au XXe siècle, le mouvement de Pentecôte. De la progression, de la réformation et des mouvements de renouveau sortirent les différentes églises indépendantes et libres. Les manquements des hommes provoquèrent des déviations et des mélanges, ce qui toutefois ne justifie aucunement de notre part le rejet de l'action infaillible de Dieu. Le sens et le but de tout réveil, c'est de rapprocher l'Église de sa condition primitive. Si déjà l'Esprit de Dieu a été actif en chaque réveil, ainsi en fut-il à nouveau de ce que l'on a appelé le réveil de Pentecôte. Ceux qui avaient été justifiés, renouvelés et qui étaient nés de nouveau expérimentèrent une effusion et une action puissante de l'Esprit. Jean-Baptiste avait bien sûr dit « Moi, je vous baptise avec de l'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi, duquel je ne suis pas digne de délier la courroie des sandales. Lui vous baptisera de l'Esprit Saint et de feu. Luc 3:16. Cette parole s'accomplit la première fois à Pentecôte. L'expérience du baptême de l'Esprit donne à celui qui est devenu véritablement un croyant la certitude d'avoir été agréé par Dieu. C'est pour les véritables enfants de Dieu le scellement par le Saint-Esprit. Éphésiens 1:13, 4:30. Bien entendu, nous avons affaire aujourd'hui aux mouvements charismatiques les plus divers, jusqu'à celui du pentecôtisme catholique romain. Une atmosphère est créée dans laquelle les gens font une expérience s'arrêtant aux sentiments, mais dans laquelle ils demeurent prisonniers de leur ancien état et de leur tradition. Ils reçoivent une certaine onction de l'esprit. Cependant, ont-ils fait dans leur âme une véritable expérience avec Dieu par laquelle ils auraient été renouvelés et seraient nés de nouveau? Seul chacun peut répondre à cette question pour lui-même. Les enfants de Dieu, véritablement remplis du Saint-Esprit, reconnaîtront la valeur éternelle de la rédemption et feront de la parole de Dieu qui demeure éternellement valable leur témoignage exclusif. Ils ont les fruits de l'Esprit par lesquels seuls ils peuvent être reconnus. Beaucoup de personnes peuvent présenter des dons. Seuls, cependant, ceux qui ont été rendus participants de sa nature divine peuvent porter les fruits de l'Esprit. Cette parole est encore valable. Ainsi, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Ce ne sont pas tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux. Mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom, et n'avons-nous pas chassé des démons en ton nom, et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom ? » Et alors je leur déclarerai, « Je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui pratiquez l'iniquité. » Matthieu 7, 20-23. Immédiatement après la Seconde Guerre mondiale, en mai 1946, commença aux États-Unis un puissant mouvement de réveil par le moyen d'un prédicateur simple et humble, William Branham, décédé en 1965. Le révérend Gordon Lindsay, qui avait suivi ce serviteur de Dieu pendant de longues années, raconte en tant que témoin oculaire dans son livre « William Branham, un homme envoyé de Dieu » qu'au cours de son ministère, Dieu fit les mêmes signes et miracles que ceux manifestés au jour du Seigneur Jésus-Christ et des apôtres. Les aveugles recouvrèrent la vue, les paralytiques marchèrent, et même des personnes atteintes du cancer à son dernier stade furent guéries. Dans la deuxième édition du livre que Merlicht Verlag a publié en son temps à Hambourg, nous pouvons voir reproduite à la page 4 la lettre que l'évêque de l'église évangélique luthérienne, le docteur Dibelius, a écrite au traducteur, le pasteur M. Genschissen. Soyez sincèrement remerciés pour l'envoi de l'intéressante brochure sur l'évangéliste William Branham que vous avez si clairement traduite. Pour nous, cette méthode utilisée par les Américains est véritablement encore quelque chose d'étrange. Mais il est peut-être bon qu'une fois, un autre esprit soit employé dans notre manière d'évangéliser. C'est pourquoi je salue favorablement votre projet d'inviter Branham aussi en Allemagne. Ce ministère mandaté et confirmé, surnaturellement légitimé, donna une impulsion nouvelle à un grand nombre d'évangélistes qui, plus tard, présentèrent une action semblable dans leur ministère. De ce renouveau sortirent de nombreuses sociétés d'évangélisation connues, comme l'Association internationale des hommes d'affaires du plein évangile. Même le mouvement charismatique et diverses autres orientations spirituelles naquirent de cela. Cependant, après un examen rigoureux, nous voyons que le chaos religieux est aujourd'hui plus grand qu'il ne l'a jamais été auparavant. Partout on entend dire « C'est ici qu'est Christ, c'est là qu'il est ». Pourtant, il n'y a toujours aucune communauté qui soit entièrement comparable à l'Église du début et qui ait la doctrine biblique qui y corresponde, la pratique et les œuvres scripturaires qui la confirment. Maintenant, à la fin des âges de l'Église du Nouveau Testament, nous avons besoin d'une action puissante de l'Esprit au moyen de laquelle l'Église arrive à son achèvement. Car le but fixé par Dieu est que la fin soit semblable au commencement. Comme Christ agissait au commencement, ainsi le fera-t-il aussi dans son corps à la fin. Par principe, tout ce qui concerne l'Église du Dieu vivant doit être ramené à l'état originel. C'est à elle qu'un temps de rafraîchissement et de complète restauration est promis avant le retour de Christ. Actes 3, 19-21. Celui qui maintenant appartient à l'Église du Seigneur ne se laissera pas entraîner par de l'enthousiasme religieux et des tromperies, mais il sondera l'Écriture sainte, découvrira, croira et expérimentera les promesses pour ce temps. Tout ce que Dieu fait, il le fait conformément à sa parole. Avant que nous puissions prier, que ta volonté soit faite, la volonté de Dieu venant de sa parole doit nous être révélée. Ce temps n'est pas celui d'hommes particuliers, mais au contraire l'heure de Dieu, l'heure de la parole, qui est la vérité. À partir de ces exposés, il doit être rendu possible à chacun d'éprouver s'il croit véritablement selon l'Écriture ou s'il a seulement la foi d'une Église, qu'elle soit officielle ou libre. Or, tout dépend du fait que l'on soit connecté ou non à la dernière action menée par Dieu avant le retour de Jésus-Christ.